Intervention. D'abord celle de David Dutton, qui enseigne à l'université de Rennes 1, qui va évoquer Henri Corbin et Gershom Scholem. Et puis ensuite Maria Soster, qui va nous présenter une communication qui a pour titre aperçu sur des textes corbiniens dans les années 30. Texte assez énigmatique, mais je pense qu'on saura plus tout à l'heure. Donc nous allons, compte tenu de l'horaire, enchaîner les deux interventions, l'une derrière l'autre, de façon à pouvoir ménager un temps suffisant pour les questions. En deuxième partie d'après-midi, questions qui porteront donc sur les deux communications que vous allez entendre maintenant, mais également sur celle de ce matin concernant Henri Corbin et Gilbert Durand, puisque nous n'avions pas eu le temps nécessaire pour un échange, disons, sur cette communication-là. Alors, certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'en 2003, lors du colloque organisé pour le centenaire de naissance d'Henri Corbin, une communication importante avait porté sur les rapports entre Corbin et la mystique juive, et il me semble que la communication qui va vous être présentée maintenant permet à s'inscrire dans cette thématique-là et va nous permettre de cerner plus précisément les rapports qui ont pu être ceux de Corbin avec ce grand maître, cet autre grand maître, cette expression a déjà été utilisée ce matin à propos de Corbin lui-même, ce grand maître qui a été Gershom Scholem, grand maître en mystique juive et en étude de la Kabbale tout particulièrement. Donc je cède la parole à David Bisson de l'Université de Rennes.
Merci.
Pour Rotterdam.
Très bien. Alors, je tiens d'abord à remercier l'association des amis de Henri et Stella Corbin, et tout particulièrement M. Pierre Laurie, de m'avoir invité à cette 7e journée pour évoquer justement les relations entre Gershom Scholem et Henri Corbin. Alors, je tiens d'emblée à préciser qu'il s'agit ici d'une recherche en cours, voire d'un début de recherche. Je vais vous demander d'être relativement indulgent, dans le sens où vous allez baliser un terrain de recherche et explorer quelques pistes de réflexion. Alors, pour introduire cette communication, je souhaite partir d'une citation de Heidegger qui me semble tout à fait correspondre à nos deux auteurs. Alors, la citation s'ouvre de la façon suivante. Plus grande est l'œuvre d'un penseur, et d'autant plus riche est l'impensée qu'elle renferme. C'est-à-dire ceux qui, pour la première fois, grâce à elle, montent à la surface comme n'ayant pas encore été pensés. Or, les œuvres de Scholem et de Corbin renferment, me semble-t-il, une partie cachée, une partie voilée, de façon plus ou moins consciente d'ailleurs, qui n'est pas encore remontée à la surface de la pensée contemporaine. Ce qui explique sans doute l'actualité sans cesse renouvelée des deux œuvres. Alors, nous n'allons pas ici sonder les profondeurs de cette avancée, mais tenter plus modestement d'en approcher certains espaces à travers les liens que Scholem et Corbin ont tissés pendant plus de 40 ans, de 1937 à 1978, date du décès de Corbin. Alors, pour comprendre cette relation, il est nécessaire de présenter en quelques mots le parcours des deux hommes, parcours que l'on peut résumer à partir de trois dynamiques constitutives et à certains égards, et à bien des égards, similaires. Alors, la première dynamique puise ses racines dans une démarche historique rigoureuse et pionnière, dans la mesure où Scholem et Corbin ont entrepris, dans chacun dans son domaine respectif, une recherche de grande envergure, pour ne pas dire un travail de titan. Le premier, Scholem, a révélé tout un pan de l'histoire cachée, et peut-être refoulée, du judaïsme jusqu'à créer une discipline scientifique à part entière, l'étude de la Kabbale, compris dans son sens large, comme l'étude de la mystique juive. Le second, Corbin, a déchiffré puis commenté de très nombreux textes arabes et persans, jusqu'à retracer les grandes étapes de la philosophie islamique, dont on soupçonnait à peine l'existence. Du moins en Occident. Alors, la seconde dynamique prend forme dans la réflexion philosophique qui accompagne ce travail, ce labeur d'historien. En effet, les deux chercheurs se sont toujours efforcés de réfléchir leur objet d'étude au regard d'un contexte bien particulier, celui de la sécularisation des sociétés modernes. Autrement dit, ils cherchent à saisir le sens de leur découverte et donc des traditions spirituelles du Guinée dans une époque où, justement, les vieux se sont évanouis. Corbin se présente, par exemple, comme un philosophe orientaliste qui se donne pour mission de rappeler, et je le cite, la vocation imprescriptible de l'âme iranienne. De son côté, Scholem se décrit comme historien doué d'un sens philosophique ou philosophe qui avait des connaissances historiques et se donne pour mission de révéler, je le cite également, la vie secrète du judaïsme. Alors, la troisième dynamique relève justement de l'engagement personnel, voire de l'engagement existentiel que l'on perçoit très bien à travers ces deux citations. D'un côté, révéler la vocation prescriptible de l'âme iranienne, et de l'autre, révéler la vie secrète du judaïsme. En signe de cet engagement fort, il faut rappeler que Scholem quitte l'Allemagne dès 1923 pour s'installer de façon définitive à Jérusalem. De son côté, Corbin passe de nombreuses années, à partir de 1945, en Iran, qu'il considère comme sa seconde patrie, celle du cœur et de l'esprit. Dans ce contexte, on peut d'ailleurs se demander comment deux jeunes chercheurs qui s'engagent corps et âme dans leurs domaines de recherche respectifs, qui sont tout de même très précis, voire hermétiques, parviennent à se croiser, puis à se rencontrer. Alors n'oublions pas ici qu'à travers les deux hommes, se joue aussi la rencontre entre deux confessions religieuses, deux espaces traditionnels. D'un côté la Kabbale hébraïque, de l'autre la théosophie islamique. Alors c'est Corbin qui, le premier, prend l'initiative de contacter Scholem au cours de l'année 1937 afin de l'inviter à contribuer à une revue de poésie et de mystique qui s'intitule alors Hermès. Alors si Scholem ne donne finalement pas suite à cette invitation, il fait part dans sa lettre de retour de l'intérêt suscité par la lettre de Corbin, et je le cite, « Je suis persuadé qu'une intime et étroite communauté d'études peut être profitable pour nous deux. » Il faut cependant attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les deux hommes se rencontrent à Ascona, sur les bords du lac Majeur en Suisse, lors des conférences organisées par le Cercle Irano, sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. À partir de 1945, ils vont profiter de leur séjour à Ascona, presque tous les étés, pour nouer une relation amicale et intellectuelle forte, profonde. En ce dialogue en temps réel, puisqu'ils se rencontraient à Ascona tous les étés, à peu près, a malheureusement laissé peu de traces matérielles, plus ou moins à ma connaissance. En tous les cas, les quelques lettres échangées montrent l'estime réciproque que se portent les deux éminents chercheurs, notamment au début des années 1970, lorsqu'ils sont au fait de leur carrière académique. Outre les formules introductives, « cher ami » ou « bon cher ami », les écrits échangés à ce moment ne sont pas sans provoquer une certaine curiosité, tant leur formulation, volontairement abstruse, voilée, en un mot ésotérique. Ainsi Scholem écrit, à l'occasion du 70e anniversaire de son correspondant, « Vous êtes, cher Corbin, l'un des rares historiens des religions dont on puisse dire qu'ils savent ce qu'ils savent. » En réponse, le spécialiste de l'islam en dévoile un petit peu plus, tout en restant volontiers énigmatique. Je le cite, « Je vous dois en grande partie le sentiment de notre communauté dans la tradition abrahamique. C'est vous qui nous apportez encore le souffle prophétique dont la privation a conduit notre monde à l'étouffement et aux horreurs. » En ces quelques lignes vont nous tenir lieu véritablement de problématiques pour cette communication, dans le sens où les liens tissés entre Corbin et Scholem débordent de beaucoup, me semble-t-il, le simple périmètre académique pour toucher à quelque chose qui relève de l'intime, de la vocation et peut-être de la mission. Alors, nous ne sommes pas bien sûr en capacité d'apporter une réponse définitive à propos de tel sujet. En revanche, ce que je vais tenter de faire, c'est de proposer quelques pistes de recherche qui permettent d'encadrer plus précisément la teneur de leurs échanges. Alors, la première piste proposée concerne le statut des deux chercheurs. Alors, nous avons vu qu'ils se situaient à la frontière ou à l'intersection de l'histoire et de la philosophie, mais il semble qu'on peut leur attribuer ni autre identité intellectuelle, une identité qui transcende les clivages académiques, celle de témoin. Alors certes, Scholem et Corbin sont des historiens, des philosophes, des orientalistes, mais ce sont aussi et peut-être surtout des témoins. Alors que faut-il entendre par ce terme ? Alors, le témoignage, l'action de témoigner, suppose trois niveaux de sens successifs. Il faut tout d'abord être capable d'entendre, c'est-à-dire de se mettre en situation d'écoute, pour enregistrer une parole, retenir un acte, imprimer un écrit. C'est un état d'être qui nécessite un exercice, un entraînement, une discipline, à laquelle l'un et l'autre vont se tenir. Il faut ensuite être capable de comprendre, afin d'intégrer en soi ce qui a été reçu de l'extérieur, ce qui suppose cette fois-ci une herméneutique, c'est-à-dire une méthode d'interprétation qui permet de traduire le dépôt reçu en acte d'être. Il faut enfin transmettre, c'est-à-dire rendre compréhensible, non plus à soi, mais aux autres, la chose reçue, car il n'existe pas de témoin isolé, de témoin solitaire, à moins de vouloir effacer pour reprendre un terme, pour employer un terme juridique, la matérialité de la preuve. Alors en partant de cette définition, il me semble qu'on peut dire que Scholem et Corbin deviennent en quelque sorte des témoins de leur propre recherche. Ils sont d'abord des mémorialistes qui exhument de nombreux manuscrits anciens. Ce sont ensuite des interprètes, souvent inspirés, qui commentent et expliquent les textes découverts. Et ce sont enfin des passeurs qui rendent présent, actuel, le sens d'une tradition pensée. Alors, la deuxième piste de recherche s'ouvre d'elle-même, puisqu'il s'agit de s'interroger sur le contenu du témoignage. De quoi Scholem et Corbin, finalement, sont-ils des témoins ? Alors, nous avons précédemment parlé de tradition religieuse, mais cette expression reste beaucoup plus vague, beaucoup trop vague, pardon. D'autant plus que ni le judaïsme, ni l'islam n'ont besoin de leur témoignage pour se perpétuer. En vérité, Corbin et Scholem se situent bien à l'intérieur de deux grands espaces religieux, le judaïsme et l'islam, mais ils se tiennent à leur périphérie, à leur marge. Là où on risque toujours de tomber au mieux dans l'incompréhension, au pire dans l'hérésie. En souhaitant révéler la vie secrète du judaïsme, Scholem témoigne ainsi d'une mystique juive qui se cristallise dans le Zohar, texte fondateur de la Kabbale hébraïque du XIIIe siècle. De son côté, Corbin rappelle aux Iraniens eux-mêmes qu'ils possèdent un trésor caché dans les témoignages fournis par les philosophes et les mystiques persans. À travers ces deux témoignages, on le pressent, les deux chercheurs visent en définitive à montrer, ou plus exactement à témoigner, qu'il existe à côté du judaïsme orthodoxe, comme de l'islam orthodoxe, une tradition qui met l'accent non pas sur le respect de la loi extérieure, mais sur l'interprétation ésotérique de la révélation. Assurément, dans cette tradition ésotérique, Kabbale juive et théosophie islamique, que se reconnaissent Scholem et Corbin. En précisant que cette tradition n'est pas une. Au contraire, elle est plurielle, elle est disparate, elle est même contradictoire, mais elle révèle une forme de pensée, et peut-être même davantage une courbure de l'âme, que nous retrouvons chez Corbin et chez Scholem. Dans le cadre de cette communication, je vais plus précisément interroger cette courbure de l'âme, cette présence, à partir de trois temps différents. D'abord, le temps de la formation, au moment où les premières intuitions laissent la place à une réflexion plus aboutie. Ensuite, le temps de la recherche, quand la publication des articles et des ouvrages, ô combien nombreux chez l'un et l'autre, laisse transparaître complètement l'unité, la cohérence de l'œuvre, et enfin le temps de la maturité, ce moment d'apaisement mais aussi d'inquiétude, où il faut penser à son héritage tout en conduisant à terme les derniers projets, souvent les plus personnels. Donc notre première partie s'intitule « Un espace de formation commun, l'histoire des religions ». En étudiant les formations initiales de Scholem et de Corbin, il est possible de déceler certaines similitudes qui vont rejaillir dans leur compréhension du fait religieux. Alors, sans revenir sur les multiples influences qui jalonnent leur premier pas intellectuel, qui sont très très nombreuses chez l'un comme chez l'autre, je vais mettre l'accent sur deux impulsions communes, un sentiment d'étrangeté d'abord, et une volonté d'exil ensuite. Alors, au cours des années 20 pour Scholem, et un peu plus tard pour Corbin, c'est-à-dire dans les années 30, un même sentiment anime les deux hommes, un sentiment d'étrangeté qui va rapidement devenir une conviction profonde. Laquelle ? L'idée que la société bourgeoise ne peut absolument pas répondre aux aspirations profondes de l'homme, cette société est comme emportée par le matérialisme et isolée par le rationalisme dans le cadre trop étroit d'un monde sans Dieu, d'un monde coupé du ciel. En ce diagnostic partagé par de nombreux intellectuels à l'époque, débouche sur une solution, ou pour le moins une aspiration, également très en vogue dans les années 20 et 30, l'idée d'une rénovation, voire d'une révolution spirituelle. En Scholem avec des accents anarchistes, le Corbin dans une tonalité plus philosophique, ressent très fortement ce sentiment qui les rend en quelque sorte étrangers à la société, voire rebelles, je pense ici à Scholem, à l'ordre établi. En ce désir de renouveau spirituel, laisse d'ailleurs transparaître chez les deux auteurs une autre source d'influence, plus seconde, mais aussi plus personnelle, celle de la théosophie chrétienne. En Scholem est par exemple littéralement retourné par l'ouvrage de Joseph Molitor, disciple de Baader, qui réinscrit la Kabbale non seulement dans le cœur du judaïsme, mais qui en fait aussi l'une des principales sources de la grande tradition métaphysique. En cette interprétation volontiers romantique et mystique, fascine Scholem, qui décide, à la suite de cette lecture, de s'orienter vers l'étude de la Kabbale. Alors, de même Corbin, qui a tout de même été le premier à traduire en français Heidegger et Karl Barth, ne trouve pas dans la philosophie une source assez profonde, on va dire, pour étancher son désir de connaissance. Et il se tourne également vers les théosophes chrétiens, tels que Jacob Böhm et surtout Emmanuel Swedenborg, pour découvrir un autre style de pensée davantage visionnaire. Or, il y a dans cette découverte, je crois en tous les cas, un motif spirituel et peut-être aussi une forme de romantisme qui va accompagner de façon plus ou moins souterraine les deux chercheurs. Or, cette découverte décisive ne suffit cependant pas à compenser un besoin qui s'exprime encore confusément. Il existe effectivement chez les deux jeunes penseurs une volonté de trouver autre chose, une volonté de s'installer dans un autre mode de pensée qui va se concrétiser finalement très rapidement dans l'apprentissage d'une autre langue, une langue au départ totalement méconnue, l'hébreu pour l'un, le persan pour l'autre. Alors, dès ses 14 ans par exemple, contre l'avis même de ses parents, Scholem suit avec assiduité les cours de langue hébraïque, et propose quelques années plus tard ses premières traductions du grand écrivain juif d'abord Samuel Joseph Agnew, suivi de la traduction et de la présentation de plusieurs textes anciens de la mystique juive. De son côté, Corbin s'inscrit en parallèle de son cursus de philosophie à l'école des langues orientales, où il apprend entre autres le persan. Il ne va jamais cesser par la suite de commenter, de traduire les grands auteurs de la philosophie islamique. Assurément, ce travail méticuleux de déchiffrage des écrits, mais aussi de présentation et de commentaires des textes, bref, un véritable travail du philologue, qui oriente naturellement Scholem et Corbin vers l'étude du fait religieux. Alors, il faut dire un mot sur cette orientation. En somme, pourquoi l'histoire des religions, qui reste un champ disciplinaire au contour très flou à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, plutôt que la philosophie, la philologie ou même la littérature comparée. C'est là, je crois, une question essentielle, puisque Scholem et Corbin trouvent dans l'étude du fait religieux, qui est aussi pour eux un enfouissement dans les textes sacrés, la réponse à leur demande de spiritualité, la réponse à ce besoin de renouveau intellectuel. On le voit ici, la frontière entre l'intellectualité et la spiritualité est très fragile, d'autant plus que l'une se nourrit de l'autre et inversement. En précisant que ni Scholem ni Corbin, le plus relatif pour Corbin, ne se sont investis dans un chemin religieux à part entière. En cela, il reste bien des intellectuels pour qui la foi dans un dogme ne peut jamais se substituer à un travail spéculatif. En tout état de cause, les hommes ont bien trouvé dans l'histoire des religions leur lieu de prédilection, leur espace de réalisation. Aussi convient-il de préciser leur approche de cette discipline. Qu'entendent-ils par l'étude du fait religieux? comment conçoivent-ils leur métier? Alors là encore, les approches méthodologiques se confondent en grande partie et reposent sur deux principes relativement simples, deux principes majeurs. Alors, le premier principe fondateur est tout simplement le retour et le recours aux manuscrits, sachant que ces manuscrits forment la texture même du témoignage. Dès lors, la philologie et l'histoire constituent les deux canaux d'une approche qui se donne pour tâche prioritaire de restaurer un corpus intellectuel entièrement fragmenté et en partie oublié. Ainsi, Scholem passe plus de 15 années à publier des traductions assorties de commentaires, des biographies et des bibliographies, avant de produire son premier grand ouvrage de synthèse avec les grands courants de la mystique juive, édité en 1941. En Corbin suit le même cheminement, puisqu'il consacre de nombreuses années à la présentation et à l'édition des textes de la philosophie islamique, avant de proposer en 1954 un premier essai sous le titre « Avicenne et le récit visionnaire ». Alors, dans les deux cas, les deux textes ont cheminé dans l'esprit même de leur lecteur, de leur traducteur, avant qu'ils ne laissent une empreinte visible, celui du témoignage remué. Le deuxième principe peut être compris comme un complément, voire un approfondissement de la démarche historique. Il n'est d'un constat. Les phénomènes religieux sont des phénomènes premiers que l'observateur doit rencontrer là où ils ont lieu et où ils ont leur lieu. C'est une citation de Corbin. Or, cette rencontre se déroule bien dans l'âme des croyants. Ainsi, le fait religieux n'est pas seulement un événement extérieur qui se déplie dans le cours de l'histoire, il est aussi un phénomène qui se déploie dans la conscience de l'homme. Pour être compris, il nécessite donc une interprétation, une méthode d'interprétation, une herméneutique, du Corbin, qui consiste à ramener le phénomène à sa source, à son archétype, pour en dévoiler le sens caché. Alors, cette conception ambitieuse du phénomène religieux trouve un relais précieux dans les rencontres d'Eranos, là où justement les deux chercheurs vont nouer un contact privilégié à partir de 1949, et ce jusqu'au début des années 1970. Ce sera l'intitulé de notre second point, un lieu de prédilection, les rencontres d'Eranos. Il faut d'emblée dire quelques mots ici sur les rencontres d'Eranos. L'initiatrice de ce projet original est Olga Frobe-Kapstein, j'espère que je n'écorche pas son nom, riche héritière, qui souhaite réunir dans un même lieu des chercheurs venus d'horizons différents afin d'aborder librement les questions attenantes à la spiritualité. Alors, l'ouverture d'un premier cycle de conférences en 1933 par Carl Gustav Jung a pu laisser penser qu'il s'agissait d'une entreprise jungienne. En vérité, les rencontres d'Eranos acquièrent très rapidement une dimension internationale et poursuivent une ambition plus large, celle de rapprocher les conceptions orientales des sciences occidentales. Donc les spécialistes des questions religieuses y tiennent bien sûr une place importante, comme Freud, Heinrich Müller, Louis Massignon, Mircea Eliade, etc. Mais il faut également compter parmi les invités des physiciens, des artistes, des biologistes, des psychologues, etc. Le grand coordinateur, par exemple, de ces journées est Adolf Portmann, un biologiste réputé qui parvient, selon le témoignage même de Scholem, souvent en fin de session, à réunir les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Alors, de 1933 à 1972, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure je m'arrête à la date de 1972, plus d'une centaine de conférenciers se succèdent à Eranos. Il convient donc de s'interroger, précisément, sur les places occupées respectivement par Corbin et Scholem. D'autant plus qu'il existe plusieurs degrés d'appartenance à la communauté pensante d'Eranos. Communauté pensante d'Eranos étant une expression de Gilbert Durand. Or, à partir de 1949 et les années qui suivent, Corbin et Scholem deviennent des figures centrales d'Eranos, qui chaque année viennent présenter l'état d'avancement de leurs travaux. Alors, toujours avec cette liberté qui permet de dépasser le point de vue académique pour laisser libre cours à des interprétations plus novatrices. L'organisatrice de ces journées demandait explicitement aux intervenants de se laisser saisir, c'était son expression, de se laisser saisir par leur objet d'étude pour laisser libre cours à des interprétations plus personnelles, voire à des expériences plus personnelles. Alors, c'est dans ce contexte que Corbin et Scholem, chacun, prononce près d'une vingtaine de conférences, lesquelles seront reprises souvent par la suite dans leurs principaux ouvrages, en tout cas dans les ouvrages importants pour la compréhension de leurs œuvres respectives. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je manque de témoignages sur la vie interne d'Eranos en général, il y a bien sûr des ouvrages, mais très peu, et sur la relation entre les deux hommes en particulier. Alors, cela reste donc un chantier largement ouvert, un chantier de recherche largement ouvert. On peut tout de même observer que leurs souvenirs quant à cette expérience diffèrent sensiblement, au moins sur le plan formel. En effet, Corbin a évoqué très positivement sa participation à Eranos. Il y a vu une réunion de conscience gnostique qui témoignait de la pérennité du message spirituel. Deux de ses amis proches, Mircea Eliade et Gilbert Durand, que l'on a évoqué ce matin, partagent très largement ce sentiment. A contrario, Solène est restée, du moins à notre connaissance, beaucoup plus discret sur son expérience iranienne. Deux raisons peuvent expliquer cette retenue. La première est d'ordre théorique. Scholem ne partage tout simplement pas les interprétations de Mircea Eliade qui cherchent à identifier les traits universels de l'homme religieux, de l'homo religiosus. De même, il se refuse à importer les concepts de la psychologie jungienne dans l'analyse du fait religieux. Cela reviendrait, selon lui, à gommer la pluralité et l'irréductibilité des expériences historiques. Alors, la deuxième raison est d'ordre plus personnel, dans la mesure où certains de ses étudiants, qui deviendront d'ailleurs par la suite des collègues, n'ont jamais compris son choix d'aller à Eranos, ce qui l'obligeait entre autres à côtoyer certaines personnalités aux parcours ambivalents, selon ses détracteurs, pour ne pas dire fascisants, et clairement visé ici Mircea Eliade, dont le passé à la garde du fer roumain commence à émerger dans le courant des années 50-60. Alors Joseph Dan, donc, qui est l'un de ses étudiants qui deviendra par la suite un de ses collègues, préfère voir en Scholem, et là je le cite, le plus éminent non-participant, tout en participant, des rencontres d'Eranos. Alors cette explication en forme de justification alambiquée, pour nous, ne tient pas. Il faut bien admettre que la participation de Scholem fut entière et continue tout au long de ces années. Sans doute y trouve-t-il une émulation intellectuelle à part, comme d'ailleurs il a pu en témoigner à propos de Henri Corbin. Scholem écrit dans son journal en 1978, date de la mort d'Henri Corbin, « Parmi tous les conférenciers d'Eranos, il était celui dont je me sentais le plus proche. » Et quelques lignes plus loin, il écrit « Son décès équivaut pour moi à la perte d'un véritable frère d'esprit. » Cette dernière citation montre bien que l'échange entre les deux savants a été intense et profond tout au long de ces années. Alors, en partant de leurs interventions respectives à Eranos, il est d'ailleurs possible d'identifier certaines thématiques communes à leur compréhension du fait religieux et peut-être davantage encore certaines structures propres à leur compréhension du monde. Alors, je souhaite plus particulièrement isoler ici une thématique qui ressurgit de façon récurrente dans leurs œuvres, celle du rapport au temps et à l'histoire. Alors, j'aurais également pu mettre en exergue de nombreuses autres thématiques. Je pense ici à la réhabilitation du sens du symbole, au rapport problématique qu'ils entretiennent avec la gnose, à la place du mythe comme ressourcement dans la religion, à la critique des institutions religieuses, etc. Donc, un chantier de recherche très largement ouvert. La thématique que je retiens concerne donc le rapport au temps en général et à l'histoire en particulier. Ensuite, à la lecture de Karl Barth et de Heidegger, Corbin a très rapidement eu l'intuition que l'homme s'inscrivait dans une histoire beaucoup plus profonde que le simple déroulement des faits le laisse apparaître. En d'autres termes, et pour reprendre un vocabulaire heideggerien, l'histoire de l'étant ne puise pas les formes de l'histoire de l'être. Il appartient donc à chacun de se forger son propre temps, le temps existentiel, pour ne pas tomber dans la pesanteur du temps extérieur, celui de l'histoire officielle, collective et anonyme. Alors, l'accès à la philosophie tartane approfondit très largement cette première conception, en mettant l'accent sur le passage, on l'a vu ce matin, de l'histoire à la métahistoire, lequel traduit un retournement, un revirement complet du temps. Alors nous pénétrons ici le cœur de la philosophie prophétique de l'islam chiite. Il n'y a ni progrès indéfini, ni retour à l'âge d'or, mais la possibilité de passer à un autre niveau de l'être, passage qui ne peut s'effectuer que par une rupture de niveau, soit, comme le dit Corbin, un revirement du temps des horizons en temps de l'âme. Dans les temps intermédiaires où nous nous trouvons présentement, celui de l'attente, les prophètes ont justement pour mission de maintenir ce lien visible, toujours retendu au gré des époques traversées. Alors, en s'articulant autour du messianisme juif, la réflexion de Scholem aborde la même thématique sous un angle différent. Ici, le messianisme se définit moins comme l'attente d'un sauveur que comme l'attente de cataclysmes historiques, et là je reprends Scholem, les mots de Scholem, directement reliés aux notions d'exil et de rédemption. Alors là encore, comme chez Corbin, ce messianisme ne doit pas être compris comme le résultat d'un développement immanent de l'histoire, autrement dit un progrès continu, mais comme le surgissement d'une autre histoire, comme la projection d'un jet de lumière à partir d'une source extérieure à l'histoire, dit Scholem. Pour Scholem, cette puissance d'effusion messianique constitue la dynamique de toute l'histoire du judaïsme. Elle est comme une attente sans cesse renouvelée, dont l'intensité varie en fonction des périodes traversées, et notamment en fonction de l'activisme de mystique. Donc pour Corbin et Scholem, il existe bien deux histoires. L'histoire quotidienne, apparente, qui déplie son canevas d'événements sous nos yeux, et l'histoire sacrée, invisible, qui agit sur un autre plan de la réalité, celui de l'âme. C'est à partir de là que les deux chercheurs développent une lecture pénétrante du sens de la révélation et de la tradition. Pour Corbin, on ne peut comprendre la philosophie islamique qu'en la rapportant à son lieu d'extraction, le Livre Saint. Comme on ne peut comprendre les philosophes de l'islam qu'en les réintégrant à leur famille d'origine, la communauté religieuse. Alors, qu'est-ce à dire? Les musulmans appartiennent à la communauté des gens du livre, tout comme les juifs et les chrétiens d'ailleurs, dans le sens où ils possèdent un livre saint, un livre descendu du ciel, un livre révélé par un prophète. Et leur tâche première et dernière, c'est de comprendre le sens vrai de ce livre, c'est-à-dire d'en pratiquer constamment la lecture et l'interprétation pour le rendre toujours présent à l'humanité qui en dépend. C'est le sens même de la tradition et de son aspect nécessairement dynamique puisqu'elle se déploie au fur et à mesure que l'humanité avance dans le temps. Scholem développe la même lecture croisée de la révélation et de la tradition. Au regard de l'histoire du judaïsme, il met cependant davantage l'accent sur les facultés créatrices de l'homme qui, en s'emparant du texte, en renouvelle toujours le contenu. La tradition est donc un acte de création sans cesse recommencé. Il en résulte deux séries de conséquences. D'abord, le processus de réception laisse fortement apparaître avec le temps des contradictions, voire des conflits entre les différents points de vue développés, ce qui, selon Scholem, loin de miner l'autorité de la tradition, cette tension permanente entre les différents points de vue est au contraire la preuve que la parole de Dieu continue à se développer, continue à se déployer. Car il n'est pas, toujours dans l'esprit de Scholem, de création et donc de tradition sans tension dialectique. Ensuite, le terme tradition induit nécessairement un autre terme, dont on a évoqué également le contenu ce matin, celui de médiation. Ce qui signifie que l'homme ne dispose plus d'un accès direct à la parole divine, mais qu'il doit passer par la médiation d'un livre saint. C'est désormais l'expérience de la voix de Dieu, plutôt que l'expérience de Dieu, précise Scholem. Or, ces deux conséquences ne sont pas bien sûr sans danger. D'un côté, la tradition peut se figer dans un corpus de règles strictes et fermer toutes les possibilités de nouvelles interprétations. Et de l'autre, la tradition court le risque de s'éloigner voire même de se couper de son noyau essentiel qui reste la révélation. C'est là justement, pour Scholem, le grand intérêt de la mystique en général et de la cabale en particulier, celui de bousculer la tradition, celui d'apporter de la contradiction, de réactualiser la révélation, bref, dit Scholem, apporter un grand coup de vent anarchique afin de relancer le processus créateur. Point de vue que Corbin, à mon sens, pourrait également adopter. Lui qui regrettait le développement d'un islam rigide, d'un islam qui venait étouffer une nouvelle possibilité d'interprétation du texte sacré. En définitive, les rencontres des Rano sont bien été le cadre d'un véritable dialogue, d'un dialogue fructueux entre les deux hommes, qu'il faut désormais interroger au regard de leurs engagements plus personnels. Ce sera notre troisième point, le temps de la maturité, rupture des continuités. Alors, cette dernière partie vise à interroger les relations entre Corbin et Scholem au moment où ils entrent dans la dernière décennie de leur existence. Le premier, Corbin, décède en 1978 et le second en 1982. Il reste une question essentielle à poser. Comment leurs recherches respectives rejaillissent-ils sur leur parcours personnel? En d'autres termes, comment près de 50 années passées dans les textes de la mystique juive et de la mystique et de la théosophie islamique dépeignent-ils sur leur propre existence? Alors, question d'autant plus importante que le temps de la maturité, pour les deux auteurs, est justement l'occasion d'un double mouvement. Le premier peut se comprendre comme un retour sur soi, une sorte de bilan de l'œuvre accomplie, tandis que le second est comme une projection en avant, avec le désir d'en éclairer les derniers attendus et d'en proposer éventuellement une forme d'aboutissement. C'est à partir de ce moment que les parcours de Corbin et de Scholem se séparent sensiblement, et ce pour trois raisons principales. Alors, la première est très simple, elle est d'ordre matériel, puisque la fondation Eranos, qui avait l'habitude de les accueillir tous les ans, recentre ses activités sur le dialogue entre l'Orient et l'Occident, donc pas de problème jusqu'ici, et surtout favorise une approche davantage de psychologie nantes à partir de 1978. Dès lors, les deux hommes, faut-il le rappeler, ne sont pas des Jungiens, s'en éloignent progressivement, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus sollicités par les projets extérieurs. Alors, la deuxième raison est plus profonde, puisqu'elle relève directement des engagements personnels, pour ne pas dire des engagements existentiels de chacun. En effet, les deux chercheurs ne poursuivent pas les mêmes fins, pour le moins, ne se situent pas sur la même ligne de fuite. En un mot, leur horizon d'attente diffère. En ce qui n'induit pas forcément des oppositions ou des ruptures, mais conduit plus sûrement à une forme d'éloignement, peut-être une forme de détachement. Alors, depuis les années 20, Scholem est effectivement un partisan convaincu du projet sioniste, qui se conjugue désormais avec une expérience vécue. Alors, son rapport au sionisme nourrit en partie de ses propres réflexions quant à la place de la Kabbale, mériterait une communication à part entière. Donc je vais juste me contenter de rappeler ici sa position de principe, répétée à plusieurs reprises, je le cite, « L'action au plan politique de l'histoire profane est une réalité différente de l'action au plan spirituel et religieux. Il serait désastreux de confondre les deux choses, le dit Scholem. » Alors si on le suit bien, le sionisme est donc un projet politique national qui ne doit absolument pas faire l'objet d'une lecture religieuse. D'où d'ailleurs ses critiques récurrentes vis-à-vis du nationalisme juif, qui tend à instrumentaliser la question religieuse. Mais si on le suit toujours bien, il faut tout de même prendre en compte qu'il existe des forces spirituelles qui agissent sur un autre plan de la réalité et qui peuvent, le cas échéant, surgir dans le cours de l'histoire profane. Alors pour Corbin, la situation est naturellement différente. Celui qui a passé le plus clair de son temps dans l'espace des théosophies islamiques n'a jamais abandonné son territoire de départ, l'Occident chrétien. Son exil oriental a même en quelque sorte favorisé son retour vers la tradition occidentale, à la condition expresse que cette tradition retrouve son essence première, son originalité indéniable. C'est à partir de ce moment que Corbin parle d'un combat pour le monde, pour l'âme du monde, pardon. Combat qui recouvre deux réalités distinctes. La première consiste à critiquer l'évolution matérialiste, pour ne pas dire laïciste, de l'Europe, qui finit par fermer une à une toutes les possibilités d'accès à la divinité. La deuxième partie du combat réside dans le nécessaire réveil, on en a parlé ce matin avec Gilbert Durand, de la tradition ésotérique occidentale qui pourrait produire ce grand coup de vent anarchique, pour reprendre Scholem, dans l'édifice d'une église jugée sinon corrompue, du moins vidée de sa substance. Alors on le comprend facilement, le messianisme vécu comme expérience quotidienne et parfois douloureuse de Scholem ne se rapporte pas directement au combat intellectuel souterrain, non dénué également de tragique, mené par Corbin. Alors, la troisième raison de cet éloignement revêt un aspect plus subjectif, elle reste discutable, puisqu'elle découle de l'équation personnelle de chacun. En effet, Scholem a décidé à la fin de sa vie de défendre strictement ses positions d'historien, non sans une forme de pessimisme accepté. Tandis que Corbin se risque à poser les jalons d'une histoire prophétique, quitte à se perdre, lui, dans les circonvolutions des groupes ésotériques. Il y a là, chez les deux hommes, une sorte de testament intellectuel qui vient préciser ce qu'il convient de transmettre lorsque le souffle de vie commence à s'amenuiser. En disant un mot tout d'abord de cette dernière évolution pour Scholem. En d'emblée, il faut préciser que Scholem se trouve dans un contexte différent, quelque peu différent de celui de Corbin. Sa mainmise sur les études juives en Israël, ainsi que son immense notoriété, entraînent les premières analyses critiques de ses travaux de recherche. Et certaines d'entre elles, ces critiques, sont particulièrement virulentes. Elles accusent Scholem de succomber, je cite, à un irrationalisme démoniaque qui vise ni plus ni moins à saper les fondements de la tradition juive, et ce, au nom d'une tradition au relent mystique et révolutionnaire. C'est une critique qui est portée par le professeur de littérature Baruch Kurzweil. Alors, d'autres critiques plus modérées, je pense ici à Moshe Lider, se cristallisent sur certaines interprétations de Scholem qui relèveraient davantage d'un postulat idéologique que de la recherche scientifique. En un mot, on reproche à Scholem d'avoir abandonné parfois la rigueur de l'analyse scientifique au profit d'interprétations plus personnelles, lesquelles laisseraient transparaître certains partis pris idéologiques, ou en tous les cas méthodologiques. En Scholem est d'autant plus sensible à ces critiques qu'il a parfaitement conscience d'utiliser parfois un langage voilé, pour ne pas dire un langage ambivalent, quant à ses objectifs ultimes. En travaillant sur la Kabbale, ne risque-t-il pas lui-même de faire partie intégrante de ce processus de transmission toujours recommencé? Ce qui reviendrait à faire de lui une sorte de kabbaliste à l'âge de la sécularisation. En vérité, Scholem réfute clairement cette identité pour réaffirmer avec force qu'il est un historien dont l'objet d'étude est la Kabbale, et non un kabbaliste qui ferait l'histoire de sa propre tradition. Alors, cette mise au point se fait en deux temps. D'abord, il précise ses options historiographiques et revient de façon didactique sur les différentes interprétations historiques. Et ensuite, il rappelle à plusieurs reprises qu'il n'est pas un historien prophète, et encore moins un mystique caché, mais simplement un chercheur qui aborde scientifiquement son objet d'étude. Moshe Hidel témoignera d'ailleurs à propos de Scholem. Il dit « Scholem était, à ses propres yeux, un raté en tant que mystique. » Je ferme l'église. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison qu'il a été un bon historien. Or certes, Scholem ne s'est jamais aventuré sur les chemins de la gnose, comme il s'est toujours refusé à prédire l'avenir du sionisme. Et Dieu sait qu'on lui a posé des questions sur l'avenir du sionisme. Ce qui ne l'empêche pas, à mon avis, d'être, là je mets avec 4 guillemets l'expression, un ésotériste accompli, j'explique, dans le sens où plusieurs de ses formulations sont voilées et peuvent faire l'objet de multiples interprétations. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici d'un double langage qu'on aurait tenu sur l'aile, mais d'un langage qui exprime une idée tout en la voilant, un langage qui laisse le sens se défiler en de multiples vagues. Je souhaiterais juste prendre ici un exemple. En Scholem répète à plusieurs reprises, et ce de façon étonnante, notamment dans ses derniers entretiens, qu'il a toujours été et demeure un anarchiste religieux. Anarchiste d'abord, parce qu'il estime que c'est la théorie sociale la plus juste, et en même temps la plus utopique, la plus irréalisable, compte tenu de la nature humaine. Religieux ensuite, parce qu'il précise qu'une société entièrement libre obéirait forcément à une loi supérieure et obéirait forcément à une loi religieuse. Et il cite opportunément le passage biblique suivant « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » En relié à l'histoire du messianisme juif, telle que le comprend Scholem, c'est-à-dire comme la résurgence d'une force mystique qui traverse toute l'histoire du judaïsme. On peut penser que l'anarchiste religieux est celui qui vient lorsque la tradition tend à disparaître sous les effets de la sécularisation. Ce que Scholem dit explicitement à plusieurs reprises. la tradition juive, en l'état actuel, est dans une situation de rupture, parce qu'elle ne peut pas s'opposer à cette vague historique qu'est la sécularisation. Du coup, dans ce contexte, l'anarchiste religieux serait une sorte de matérialiste par défaut, par nécessité historique, qui conserve dans son esprit l'empreinte d'une langue sacrée, le souvenir d'une tradition impérissable, laquelle peut ressurgir à tout moment, selon la loi dialectique de l'histoire. Il est donc, en quelque sorte, un témoin malgré lui, un témoin qui ne sait pas ce que va devenir son témoignage, qui ne sait pas ce dont il est finalement le témoin. En vision que Scholem me semble traduire dans un de ses textes les plus tardifs, même s'il reprend d'autres passages de textes anciens, intitulé « Les 10 propositions non historiques sur la Kabbale ». Il y parle notamment, et là je le cite, de franchir la muraille brumeuse de l'histoire, dans l'espoir de voir se produire une presque invisible et infime fluctuation de l'histoire, qui permettrait à la vérité de se frayer un chemin à travers les illusions du progrès. Alors, quand on sait que Scholem se présente, par exemple, à son ami Léo Strauss, comme le vieux kabbaliste rationaliste de Jérusalem, on peut légitimement s'interroger sur le statut ultime de Scholem, historien extérieur ou témoin intérieur de la Kabbale. La question est bien sûr reste ici posée. De son côté, Corbin, loin de faire retour sur l'ensemble de son œuvre, préfère au contraire réinvestir celle-ci dans une réflexion plus vaste, une réflexion qui le conduit dans deux directions liées. En premier lieu, l'ouverture d'un nouveau chantier de recherche, qui tient lieu d'espérance véritablement pour l'avenir, et en second lieu, la volonté de proposer son propre chemin de connaissance et de gnostique. Alors, il faut préciser ici que, contrairement à Scholem, Corbin a souvent été décrit par ses proches comme une figure en quête de spiritualité, voire tout simplement, comme on l'a vu ce matin, comme un maître spirituel. L'un de ses commentateurs les plus précis et les plus profonds, Darius Shayegan, a identifié son ressort essentiel à Corbin, à celui de la gnose iranienne, soit la nostalgie existentielle de tout étranger à la recherche de son ange. Et il s'interroge à propos du spécialiste français, Corbin a-t-il rencontré son ange? A-t-il rencontré cet ange? Et il répond logiquement par la suite, nous ne le saurons jamais. En tous les cas, cette aspiration porte effectivement à son incandescence les ultimes engagements de Corbin. En 1973, Corbin atteint l'âge de la retraite et quitte les postes occupés simultanément à l'École pratique des hautes études et à l'Institut franco-iranien. Alors, cette nouvelle liberté académique lui permet de poser les bases d'un projet plus personnel qui prend la forme l'année suivante, en 1974, de l'Université Saint-Jean de Jérusalem. Alors, cette université se présente, comme on l'a dit ce matin, sous les traits d'un centre de recherche spirituelle comparé, et se donne pour mission, et là je cite Corbin, l'étude de la gnose commune aux trois grandes religions abrahamiques, bref, l'idée d'un œcuménisme abrahamique fondé sur la mise en commun du trésor caché de leur ésotérisme. En un mot, il s'agit de découvrir la gnose universelle sous-jacente aux trois religions du livre. Alors, concrètement, la principale activité de l'Université Saint-Jean de Jérusalem réside dans l'organisation d'un colloque annuel qui donne lieu à la publication d'un recueil d'articles. En les intervenants, le plus souvent des spécialistes des monothéismes, donnent au projet une tournure clairement universitaire. Et pourtant, l'objectif de Corbin va bien au-delà de la formation d'une communauté savante, puisqu'il s'agit de donner naissance à une véritable chevalerie spirituelle. Alors nous entrons ici dans le cœur du projet Corbin. Pour lui, l'Université Saint-Jean de Jérusalem doit être à la fois un refuge pour l'idée gnostique et un temple pour les chevaliers de l'esprit. Cette vision aux accents prophétiques se décline sous deux modalités consécutives, que je vais aborder très rapidement. Au plan religieux, seul le retour à l'ésotérisme pourra sauver le christianisme d'une laïcisation complète et mortifère. On retrouve là une thématique chère à l'un des auteurs qui l'accompagne depuis longtemps, le russe Nicolas Berdyaev, qui disait avant, et que Corbin reprend, à l'église extérieure de pierre, romaine et institutionnelle, doit succéder l'église intérieure de Jean, éternelle et mystérieuse. Au plan spirituel, le spécialiste de l'imaginal met en place une pédagogie qui vise, selon ses propres mots, je le cite, à produire dans l'intime de l'être l'aptitude à rencontrer le maître personnel invisible. Alors, ce propos beaucoup plus mystique s'articule autour du symbolisme du temple, cette destruction du temple comme symbole de l'exil terrestre, soit l'exil occidental, sa reconstruction comme symbole de renaissance, retour à l'Orient, et son avènement dans le cœur comme symbole de réalisation, et Corbin de prédire la formation de l'église du Paraclet, dans laquelle se retrouveront les trois confessions abrahamiques à la fin des temps. Alors pour clore ce sujet, il faut tout de même faire deux remarques complémentaires. D'abord, Corbin a mené, en parallèle de ce projet d'université de Saint-Jean de Jérusalem, une vie maçonnique aussi intense que compliquée à partir du début des années 70. Et là, je renvoie aux articles de Jean Clergue qui sont parus dans la revue d'initiation. Il s'agissait pour lui, au-delà de la question strictement spirituelle, sur laquelle on ne peut rien dire, de trouver des documents qui confirment ses intuitions à propos de la survivance d'une gnose chrétienne et de poser les bases d'une chevalerie spirituelle réellement active. Alors, sur ces deux dernières questions, le chemin maçonnique de Corbin fut très chaotique, à tel point que l'on peut se demander s'il ne mène pas à une impasse. Alors, la seconde remarque prend également la forme d'une interrogation. On sait que Corbin a repris, a réutilisé les travaux de Scholem quant à la Kabbale juive pour justement mettre en perspective la gnose des trois monothéismes. En revanche, on ne connaît pas, en tout cas à ma connaissance, on ne connaît pas la réaction de Scholem quant à son projet, ni même s'il en a eu connaissance, ce qui serait quand même étonnant. Peut-être que si vous pourriez m'apporter des éléments. En tous les cas, au vu de ce qu'on a dit auparavant, il est clair que Scholem ne pouvait pas s'associer à tel projet, d'abord parce qu'il franchit trop allègrement les limites de Victoire pour s'aventurer du côté de la mystique, de la gnome. Ensuite, parce qu'il dénie la singularité des monothéismes au profit d'une approche concordiste. Or, Scholem a toujours considéré la tradition juive comme se suffisant à elle-même. Ainsi, selon lui, les comparaisons de Devet ne pouvaient pas atteindre ce stade qui reviendrait à nier une expérience historique irréductible et plurielle au profit d'une approche universaliste. En conclusion, il me reste une question. En conclusion, je souhaite mettre en relief un facteur qui me semble essentiel à la compréhension des deux œuvres et qui explique en partie les raisons de leur rencontre. Alors, ce facteur concerne le statut des deux chercheurs que nous avons évoqué en introduction. Plus que jamais, ils paraissent comme des témoins modernes d'une connaissance à la fois ancienne et actuelle. En précision bien qu'il ne s'agit jamais pour eux d'un retour à une quelconque tradition religieuse, mais bien d'un recours à la tradition comme forme de pensée, comme mode de compréhension du monde. Ainsi, leur critique, parfois virulente, contre le rationalisme ou contre la sécularisation, ne doivent pas être comprises comme un rejet global des Lumières, que l'on peut percevoir, par contre, chez Gilbert Durand, nous semble. Au contraire, il faut se frayer un chemin difficile au cœur de la modernité pour accoucher d'une autre rationalité, une rationalité ouverte, laquelle serait capable d'accueillir les visions des mystiques comme de prendre en compte les spéculations des théosophes. Cette ouverture est d'autant plus importante que les courants mystiques et ésotériques peuvent constituer l'un des moteurs les plus puissants du changement historique. C'est l'autre enseignement tout particulièrement mis en valeur, mis en relief par Scholem. La puissance des fusions spirituelles, même si elle est portée par un cercle restreint de personnes, peut rejaillir dans le cours des événements comme une sorte de brèche dans le temps par laquelle passent les espérances messianiques. À ce titre, on peut se demander comment les traditions souterraines, révélées par Scholem et Corbin, vont peu à peu remonter à la surface de la pensée commune, peut-être produire des secousses inattendues. Assurément, les deux hommes avaient tout à fait conscience que leur témoignage n'appartenait pas au passé, mais bien plutôt à l'avenir. Je vous remercie.
Merci à David Bisson d'avoir tenu son temps de parole.
Nous allons pouvoir enchaîner sans plus tarder avec la communication.
On peut poser quelques questions.
Après, on doit, m'a-t-on dit, enchaîner les deux communications.
Non, mais ça ne va pas.
Moi, je...
Qui vous a dit ça?
Pierre,
non, mais tout de même, ça vaudrait mieux, parce que là, un certain nombre de choses ont été dites, moi, oui. On va perdre le fil.
D'accord.
Bon. Ce n'est pas de l'ordre de l'académie.
Non,
là,
il y a quelques questions.
De l'historicité.
De l'historicité, on peut bien. Dire de la précise des choses.
Bien. L'amendement est retenu. Donc nous allons...
Voilà, parce que sinon, après, plus rien n'aura lieu.
Nous allons donc...
discussion en post-conférence.
Donner un temps de questions, donc une dizaine de minutes de questions sur l'actuelle communication.
Ah ben je prends immédiatement.
Donc, Christian Jambé, la parole.
Oui, je voudrais intervenir sur ce que vous avez dit à la fin de votre extrêmement intéressante et instruite conférence vous apportez un certain nombre d'éléments peut-être touchant ce que vous avez dit, des divergences, du moins des différences d'orientation entre Gershom Scholem et Henri Corbin. Touchant Scholem, je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit, et d'ailleurs je crois que vous avez mentionné et les critiques et les réponses aux critiques. Et tout ce que vous avez dit, autant que je puisse en juger, me paraît absolument infaillible. Touchant Corbin, d'abord, quant au fait, quelle que soit la fin de son activité officielle, c'est-à-dire son départ à la retraite, d'abord, je tiens à rappeler que plusieurs ici le savent, qu'il a continué jusqu'à sa mort son enseignement académique. Ceci est très important, parce que l'enseignement à l'école pratique des hautes études, dont il y a des traces jusqu'à la dernière année dans le recueil des comptes rendus qui a été publié en Iran et en France simultanément, témoigne de quelque chose sur quoi je veux intervenir, qui est la concordance avec l'entreprise de Saint-Jean de Jérusalem. Je crois, mais pour résumer les choses en quelques mots, que l'on confond souvent ce que Henri Corbin énonce comme un devoir être pour ceux qui, aussi bien écouteraient les cours des hautes études que suivraient les conférences de Saint-Jean de Jérusalem, et ce qui est son œuvre propre. Je peux témoigner, et d'autres peuvent témoigner, sur ce point, de sa convergence totale avec Scholem jusqu'à la fin, sur le fait que l'un et l'autre se veulent essentiellement des savants, et non pas des maîtres spirituels. Je voulais le dire ce matin, touchant déjà Jung, et je le dis maintenant parce que Saint-Jean de Jérusalem, nous sommes plusieurs pour en témoigner, était un lieu d'enseignement de l'art, et qui ne diffère pas pour Henri Corbin de ce qu'il fait aux études, même si, bien entendu, le public est différent. Je pourrais même dire que, paradoxalement, il y a plus d'ésotérisme dans le cours des hautes études qu'à Saint-Jean de Jérusalem, où il y a des conférences, relisez les étapes des matières, il faudrait d'ailleurs rééditer l'ensemble des cahiers, je crois maintenant ce serait le moment de le faire. Il y a son idée, c'est une université libre, qui permet, en effet, non pas un universalisme, là ce n'est pas vrai, pas une vision universaliste, déjà ça exclut les bouddhistes, les hindouistes, les shintoïstes, toutes les religions d'Extrême-Orient, il s'est prononcé là-dessus, dans Paradoxe du monothéisme. Mais il y a une attitude comparatiste.
Concordiste.
Non, absolument pas concordiste. Absolument pas concordiste. La preuve en est d'ailleurs qu'il y avait une de grandes, non pas opposition, mais distinction entre les conférenciers en matière de judaïsme, essentiellement un d'ailleurs, les conférenciers en matière d'islamologie, plusieurs, et les conférenciers en matière de christianisme, encore bien davantage, et de gnose chrétienne, etc. Mais quant à l'accord avec Scholem, qui est resté jusqu'au bout, je crois que nous sommes plusieurs à pouvoir en témoigner. Bon, en tout cas, j'en témoigne pour ma part, parce que Henri Corbin ne souhaitait pas du tout que j'étudie l'arabe ou le persan, mais bien l'hébreu et l'araméen. Greg pensait qu'il fallait rejoindre Scholem. Rejoindre Scholem sur ses bases. Deuxièmement, Scholem a témoigné de la chose primitivement dans son grand livre sur Zavataïzeli, où il y a alors là le point d'accord fondamental lorsqu'il montre que le messianisme de Zavataïzeli est très proche, comparable en tout cas à celui des Ismaéliens. Et tardivement, il y a eu évidemment cette chose qu'on ne voit pas dans Jérusalem, mais qui est capitale chez Corbin, qui est grâce à Scholem une inclination de plus en plus grande vers un retour, alors pour le coup aux origines, c'est-à-dire aux faits bibliques, abrahamiques et de l'exégèse de la mystique juive comme ayant un statut spécial. Alors Corbin a peu écrit sur la chose, et c'est quelque chose qui comptait énormément pour lui. Voilà, c'était les points que je voulais dire. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'un côté un homme de plus en plus pressé de défendre sa position d'historien, et de l'autre côté, une sorte de gourou, pardonnez-moi. Vraiment, jamais, je crois, Henri Corbin n'a donné l'impression d'être tel. Et sa position universitaire, je voudrais même insister là-dessus, et on pourrait dire son attachement, typiquement germanique d'ailleurs, au phénomène de l'université, bon, singer un peu ce qu'il disait, hein, le phénomène transhistorique de l'universitas était quelque chose de tout à fait semblable à celui de cet autre grand germanisant qui était Scholem. Voilà, pardon, je voulais apporter ça.
J'espère pas l'avoir présenté comme un goût.
Pardonnez-moi, j'avais un peu peur d'avoir compris ça, mais alors
peut-être que du coup j'ai beaucoup trop accentué cet aspect dans la décennie de
l'Église. Non, il pensait, si vous voulez, Saint-Jean de Jérusalem, c'était de préparer sur le plan du savoir les conditions de possibilité de ce que vous avez dit. Mais il n'a jamais eu l'illusion selon laquelle c'était ça, la chevalerie spirituelle. Il faut quand même se souvenir, ça part de l'étude des Futuhat Nameh, la chevalerie spirituelle. C'est une thématique. Je ne dis pas que c'est une fiction, mais c'est une thématique. Et à vouloir trop penser que Corbin se voyait et voyait Saint-Jean de Jérusalem comme une sorte de réalisation de la futuha et de la chevalerie spirituelle, je crois qu'alors on lui accorderait une forme de hâte ou même de naïveté qui n'était pas le fait des choses. Je prends ici à témoin mes collègues qui étaient et amis qui étaient dans cette affaire. Non, il voulait réunir des gens de bonne volonté sur les bases que vous avez dites, parfaitement vrai, hein, c'est tout à fait ça, mais qui prépare sur le plan du savoir ce qui éventuellement serait dans une autre histoire la possibilité de la chose. Et donc il n'y a pas de ce côté-là, ça que je voulais dire par gourou, pardon, d'ailleurs les gourous sont des gens très estimables, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, il n'y avait pas l'idée d'une sorte de, j'allais dire, de réalisation immédiate des choses par une sorte de réalisation un peu sectaire de la chose. Alors, il y a un peu cette dimension-là, bien sûr, toujours.
Parallèlement à l'université Saint-Jean-de-Jérusalem, il y a tout de même tout l'engagement maçonnique.
Oui, mais ça, c'est même autre chose. Oui, mais Saint-Jean-de-Jérusalem, c'est d'un autre ordre. Et d'ailleurs, c'est ouvert, et je maintiens que les cours des hautes études sur Moulla Sadra, sur Cheikh Ahmed Assaï, etc., étaient d'une certaine manière beaucoup plus ésotériques que les leçons ouvertes au grand public, et qui étaient celles de cette université qui, pendant trois jours, unissant des esprits d'ailleurs très divers, qui allaient d'un grand penseur orthodoxe comme Olivier Clément jusqu'au rabbin Abécassis, permettait une sorte, disons, de maintien de moi, je vais vous dire, c'était l'Eranos français. Son rêve, c'était de faire un Eranos français. Par si, encore une fois, je ne me trompe.
Toute proportion gardée.
Toute proportion gardée. Non, je n'ai pas du tout qu'il pensait que c'était réalisé, oui. Car c'était un homme qui avait les pieds sur terre, Corbin, comme Scholem. C'était aussi un des points qui les réunissait.
Merci pour cette mise au point, peut-on dire. Monsieur a demandé la parole, et puis ensuite Claude Guénubé.
Monsieur Jardet avait dit que, en parlant avec Stella Corbin au sujet de pratique, de quel type de pratique faisait régulièrement Henri Corbin, elle a été très claire que jamais était attaché à Tarika Kelpon, mais presque de manière journalier, il recitait dans le silence et il jouait au piano d'un musicien. C'est un autre clavier, le clavier herméneutique. Et là, il y a vraiment un mystère, le mystère de quelqu'un qui passe 50 ou 60 années à chaque fois devant des manuscrits et qui rédige les éditions critiques de peut-être une quarantaine de manuscrits en arabe et persan. Et ce travail, souvent aujourd'hui, on a entendu dire, on a entendu parler de chevalerie spirituelle, on essaie d'éclaircir ces travaux avec son parcours maçonnique, mais pour éclaircir le parcours spirituel de Henri Corbat, il faut tout simplement se diriger vers son œuvre. Ça a toujours été comme ça si on veut s'interroger sur la vie spirituelle de Thomas Aquin. On lui rencontre dans ses textes. Et si Corbin avait quelque chose à rapprocher les temps modernes, c'est que les institutions sociales qui avaient remplacé ou qui s'étaient érigées en place des institutions ecclésiales avaient oublié l'héritage qu'ils leur devaient. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, son argument porte sur la possibilité de la théophanie, et non pas quelque chose qui centre sur un effort de présenter une étude textuelle qui renferme une certaine possibilité chez ceux qui l'étudient. Et non pas qui recommande une voie spirituelle personnelle pour ceux qui... On va à l'encontre de Corbin dans les textes. C'est vrai que le voie maçonnique est certain d'être un impact, puisqu'il a laissé toute une œuvre.
Une réaction Claude Gagnebet,
j'ai le sentiment depuis ce matin que la balle passe tranquillement entre Corbin, Massignon, on fait la passe comme ça, à l'intérieur des loges, à l'intérieur des Ranos, tranquillement, et à l'intérieur du Collège de France, et à l'intérieur de l'enseignement aux études de l'histoire des religions. En même temps, il y a les autorités religieuses traditionnelles. Rome. Quelle est la position de Rome vis-à-vis de la maçonnerie? On la connaît, on continue à condamner. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut être Rome, le Caire, Jérusalem. Il y a là trois grands centres traditionnels qui ont reçu depuis longtemps des traditions. Quelle est leur position vis-à-vis de ce petit jeu de balle des intellectuels, c'est-à-dire des professeurs en histoire des religions, qui flirte plus ou moins avec on va se convertir, on ne va pas se convertir, on va y croire, on ne va pas y croire, etc. Mais qui finalement, il faut le rappeler, ont été condamnés par Rome. Heureusement, en 1908, c'est clair. Voisy est condamné. Saint-Yves est excommunié. C'est clair. Et je trouve que ce qu'il faudrait savoir, c'est que à l'extérieur de ce jeu, de ce petit jeu où entre loges et tout ça, on fait de l'histoire des religions, quelle est la position des religions établies à cet égard? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on écrit à Rome sur l'ensemble de ces, alors peut-être, héritiers des modernistes, disons, enfin, qu'importe. Est-ce que vous avez une idée de ça? Parce que sinon, on a l'impression qu'on est là dans un monde, ça tourne bien. Ça tourne bien, mais ailleurs, par exemple, Scholem, de la part des kabbalistes traditionnels, est parfaitement condamné. Quand on a l'horreur de parler de Scholem en Israël, c'est il lève les bras au ciel en disant c'est lui qui a donné la Kabbalah à tout le monde, c'est lui fait ni à faire. Bon, ça c'est déjà un point de vue important de.
Oui, je crois qu'il y a vraiment deux espaces. Il y a l'espace de la recherche académique.
J'entends bien.
Et je ne crois pas, à ma connaissance, que les grandes institutions religieuses condamnent la recherche en sciences religieuses. Et que faire que les kabbalistes n'apprécient pas beaucoup Scholem parce qu'il ne va pas dans son compte. Et d'ailleurs, Scholem lui-même a combattu.
Et au Caire, beaucoup ce qu'on dit de. Et au Caire, est-ce que dans l'université du Caire, on apprécie beaucoup ce qu'il se dit et ce que dit Corbin? À mon avis, il doit y avoir des réactions. Alors, c'est le ventre mou. Et le ventre mou, c'est bien plus fort. C'est-à-dire qu'au lieu de donner le moindre écho à toutes ces recherches, on ne dit rien. Alors là, on est fait, ça passe. La mort, c'est grave.
Dernière question de la part de Jean-Claire. Que...
On connaît la position de Rome et de Corbin du Congrès de Rome. D'abord, il était protestant. Il était régulé.
Il est masqué. Protestant.
Il fait beaucoup. Sur ce plan-là, un collègue. On connaît l'intervention de M. Jambé. Quant à. Il faudrait faire la différence, on peut dire la nuance, entre un gourou et un charme. Corbin était un charme.
Voilà.
Et c'est assez amusant c'est de voir agir son charme à travers les annuaires du premier ordre de Saint-Jean-Jérusalem, à travers les annuaires de la franc-maçonnerie, à travers les annuaires du deuxième ordre de Saint-Jean auquel il a appartenu. Dans tous les cas, on trouve la même douzaine de noms, généralement provenant soit de professeurs, soit d'étudiants de l'EPH. Je dois dire que j'ai cherché effectivement le nom de M. Christian Jambé, que je n'ai pas trouvé.
Oh. Et je peux vous dire pourquoi.
Et moi aussi, je puis vous le dire, connaissant maintenant votre parcours politique,
ben voilà.
Vous voyez mal prêter le serment de chevalier sur le petit livre rouge.
Oui, mais Henri Corbin m'a dit, vous brûliez des immeubles, je publiais sans avoir dit, c'est la même chose. Ça illustre ce que vous dites, on sent le charme. Mais on s'entendait très bien, et ça illustre, pardon, je vous interromps, vous m'interpellez, je vous... bon. Il savait très bien ce qui était de l'ordre ésotérique maximal de, encore qu'il m'ait confié comme à plusieurs des documents de la franc-maçonnerie, de la langue de France, de Saint-Jean de Jérusalem, etc. Mais la vocation templière était une chose. La vocation de ce qu'il appelait l'église invisible, par quoi il restait fondamentalement un protestant, c'est-à-dire sa problématique et celle du protestantisme, j'insiste là-dessus, non pas que je sois protestant, mais que je crois qu'il faille que, toujours revenir à ça, vous avez raison. C'est un protestant. C'est un protestant luthérien qui part de la division fondamentale église visible, église invisible. Il n'y a pas pour lui d'église visible qui tienne. La visibilité de l'église dans le monde temporel est une absurdité et même une faute. Voilà sa thèse. Et alors, il y a d'autres niveaux qui sont ceux que vous dites. Et à partir de là, il y a le charme. Et puisque vous mentionnez ça, quitte à faire un peu, mais puisque vous lancez les choses, autant aller sur ce terrain, car je le crois juste. Lacan a recruté à l'école normale supérieure où nous sommes. Vous en êtes témoin. Corbin a recruté à l'école pratique des hautes études. Parlons de recrutement, au sens noble, au sens voilà. Et j'en parle d'autant plus que nous avons parlé, Corbin et moi, de Lacan, donc il considérait à la fois comme un ami et un rival, et c'était des hommes de la même génération. Il y avait une vision, comment dire, du regroupement des forces. Appelons ça ainsi. Allons jusqu'au bout. Il fallait regrouper les forces spirituelles, de même qu'un Lacan regroupait les forces autour de l'idéal du retour à Freud. Et Henri Corbin ne mélangeait pas les choses. Mais la norme corbinienne, je maintiens, c'est celle du statut de l'université tel qu'il l'avait connu chez Karl Levy, à Marbourg, même auprès de Heidegger, et qui était pour lui, ou auprès de Scholem, c'était pour lui, disons, le critère de partage entre ce qui est l'exercice de la raison savante et ce qui, par ailleurs, peut être l'exercice, disons, de la foi personnelle et, comme notre ami le rappelait tout à l'heure, de la méditation solitaire au piano jouant Wagner. Pardon de vous avoir interrompu, mais ça allait tout à fait dans votre sens.
Donc, une question de ça. À propos des pianos, c'était plutôt un harmonium.
Oui, un sextet.
C'était malheureusement dû aux attaques d'une sourdité qui s'était manifestée relativement jeune et qui s'allait en centre de France, ainsi que nous en témoignent les deux 408 qui sont ici et qui nous en parlaient. Mais il y a un autre point sur lequel il faut voir comment on va, parce qu'on sort comme un chapeau de l'université de Saint-Jean-de-Jérusalem. Elle se réunissait quand même, ou du moins pour les premières années, à l'abbaye, l'ancienne abbaye cistercienne de Vincennes, près de Cambrai. Et là, il y avait eu un accord de passé avec les propriétaires qui faisaient partie d'un deuxième ordre, je dirais, de Saint-Jean-de-Jérusalem, donc Saint-Michel, Corbin, Durand, Antoine Fès ce matin, c'est là, donc était complètement mêlé. Et le projet initial était, dans cette abbaye, de reconstituer un état d'esprit conventuel avec des salles d'études, des chambres, en même temps un lieu de méditation construit. Et parallèlement, donc là, Corbin avait ses trois fers au feu, si on peut dire. Il était, après ses désillusions de la France à Téhéran, était entré dans la maçonnerie que je dirais régulière vis-à-vis de l'Angleterre, c'est-à-dire la GLNF Dino à l'époque. Voilà, donc il continuait ses trois activités. Et alors, ce qu'il y avait, ça, lorsqu'on a dépouillé les archives avec mon ami Manuel Dino à la bibliothèque de l'OPHE, on a trouvé des choses assez effarantes, qu'on n'a pas encore publié jusqu'à présent, parce que c'est assez difficilement compréhensible. C'est une finalité dans de véritables schémas et des diagrammes de synarchie. Alors, ce n'est pas la synarchie, ça fait plutôt la synarchie au sens de Satine Vincennes, ce n'est pas la synarchie pétainiste de l'État français, mais il y avait des schémas de prise de, je ne dirais pas, le pouvoir spirituel un peu à travers les différents centres de décision français, à commencer par les NA, et puis un certain nombre d'autres. Donc ce qui montre jusqu'à quel point était conduite cette unification pratique.
Bon, merci pour ces précisions. On aura l'occasion de continuer la discussion tout à l'heure au cours du cours de la journée. Je pense que...